Voici auparavant le début de la nouvelle « Mon paradoxe »
d'Andrea Marco Longo Muratovic. Je dors toutes les nuits avec un paradoxe. Sa peau de bébé me déconcerte. Je la touche et elle semble vierge, la peau de quelqu'un qui n'a jamais vécu. D'un être venu au monde hier, pas il y a 50 ans. Ou de qui a passé sa vie dans une bulle de verre qu'aucune grenade n'a pu ébrécher. Non, ça ne peut pas être la peau de celui qui est allé à l'école. Comme on me dit quand je lui demande les raisons et l'histoire de toutes les cicatrices dont elle est balafrée. Skolsky Dani, les jours d'école. Sa façon, sa seule façon de me dire qu'il a fait la guerre. En Bosnie-Herzégovine, pas à Sarajevo, mais plus haut, entre Tuzla et Srebrenica. Il n'en dit pas plus, et moi j'accepte. Ce faisant, à mon tour, dans un repli obscur de moi-même, dont je n'avais pas conscience avant lui, je me suis approprié cette expression vague et vide, et je fais semblant d'y croire quand ça me fait trop mal. Le barrage qu'il impose à la mémoire m'étourdit. Sa façon de faire taire les cauchemars la nuit est aussi devenue la mienne. Tout, je suis prête à tout croire pour ne pas souffrir. Je pourrais m'effondrer sur place. Alors moi aussi, je fais comme si mon paradoxe était allé à l'école. J'y arrive très bien à me mentir à moi-même. Je me raconte qu'au fond, oui, c'est presque normal. Il y a des écoles où on apprend l'anglais, les mathématiques ou le grec ancien. D'autres, où il n'y a ni instituteur ni professeur, mais des projectiles et des lames. Question de chance, en somme.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
nous sommes le 22 juin et c'est le lendemain de la journée mondiale des réfugiés. Il y a eu à la fête à la Friche de Mai une manifestation à ce sujet.
Oui, et dans le cadre de cette manifestation, les bénévoles de SOS Méditerranée ont participé aux conférences, débats et animations.
C'est en effet des gens qui ont participé à l'ouvrage que nous allons vous présenter. Il s'appelle Méditerranée, Amer, Frontière. Il est dirigé par deux femmes, Nathalie Levissal et Caroline Moine. Nathalie Levissal et Caroline Moine. Et quelques mots pour commencer pour vous présenter SOS Méditerranée. Hein, c'est une association qui a financer un navire pour venir en aide aux réfugiés. Leur idée était de venir en aide aux réfugiés et de leur assurer à leur arrivée sur une terre qui était plus la Syrie ou autre terre dangereuse, la santé, l'alimentation et la sécurité.
SOS Méditerranée, c'est surtout un bateau,
oui,
qui sauve les gens de la noyade.
Oui. Alors, le bateau a eu des ennuis, il est resté à quai souvent, mais il est maintenant remplacé par Ocean Viking, qui joue le même rôle. Et la Méditerranée, SOS Méditerranée, c'est une association privée. Et elle vit de 90% de dons, qui sont des dons privés. Et tous les bénéfices du livre que nous allons vous présenter seront reversés à cette association. Je ne sais pas si le bateau s'appelait SOS Méditerranée. Tout d'un coup, je croyais, moi. Si ?
Oui, oui.
Alors,
Association européenne de sauvetage en mer.
Ah. Ah, et
le navire s'appelait Aquarius.
Aquarius, voilà. Et je terminerai par une belle citation qui est signée de ces deux dames qui ont dirigé l'ouvrage, la Méditerranée. SOS Méditerranée, qui a participé à ce livre. Et j'espère que la littérature viendra après la vie pouvoir dire quelque chose que les politiques entendront. Et on voit que c'est le signe d'un espoir que la littérature, elle peut faire quelque chose aussi dans ce domaine-là. Et le livre, j'ai oublié de le dire, il fait des temps, est composé de 15 textes, les uns très courts, les autres beaucoup plus longs, qui sont consacrés justement à leur vision de la Méditerranée. Et on va commencer par une vision qui est une vision assez classique, vous verrez. Hein. C'est pas ce qu'on a l'habitude de vous lire quand il s'agit de lire des témoignages, on a plutôt l'habitude de vous lire des témoignages de gens qui ont vécu ça. Et là, c'est pas pareil, c'est le ressenti qu'on peut avoir. Il y a un témoignage simplement qui visiblement est le mot à mot de quelque chose que le témoin a dit et qu'il n'a pas écrit parce qu'il n'en a pas les moyens, mais qui a été écrit par le journaliste. Les gens qui écrivent là-dedans, c'est des gens de classe moyenne, c'est pas du tout. Les Aragas, ils sont chercheurs, ils sont professeurs, ils sont traducteurs, ils sont beaucoup écrivains, journalistes, et avec des missions, certains donc peut-être sont justement ces bénévoles que vous aurez pu voir hier à la Friche, et ils font des missions dans différents pays, là où il y a la guerre. Et ça ne les empêche pas, même s'ils ne sont pas spécialisés à la Méditerranée, d'avoir leur vue là-dessus. Et on va commencer par cette vision, qui est une vision assez classique de quelqu'un qui est enseignant et qui vit dans une île grecque, j'ai oublié son nom, à Majorque, et qui écrit donc. Vous allez voir deux visions qui montrent deux visions de la Méditerranée. D'abord, c'est la vision classique, la vision du Club Med, on peut dire. Page 15.
Donc, José Carlos Ló, sur la route des Gambas. Je vois la maison de Curcio Malaparte à Capri et Jan Schiberg, un poulpe à la main, l'eau vert émeraude et les ongles rouges. Et c'est la Méditerranée qui m'a vu naître, le lieu de tous les mythes. Ulysse s'appellerait Onassis et aussi Nyarkos, avec la calasse dans le fond, comme Médée, toujours dans le fond. Les chèvres belles au milieu des figuiers, et la figue est un poème de D.H. Lawrence qui parle de sexe et la voix de la mer, dans la lumière des fruits et derrière ses vers. Dans cette voix, il y a aussi les marchés aux esclaves, les portulances enluminées, les éléphants d'Hannibal et Cervantes se battant contre le Turc avant d'écrire le Quichotte, introduisant la tradition des mille et une nuits dans le roman européen au moment où il se fonde, comme un tour de passe-passe du destin ou un legs ironique de ce qu'il a combattu. Et l'autre vision, son herméneutique à la Méditerranée, elle est formée de nombreuses voix, de mains échos, de différentes civilisations, et ce qu'elle n'admet pas, c'est l'interprétation externe. À qui vient de l'extérieur, seul le paysage est accessible, et quand il veut pénétrer l'humain, il se trompe. À qui vient de l'extérieur, l'ethnologie est refusée, si ce n'est par le biais de l'amour, et David Abou Lafia est séfarade. Alors il nous apprend. Dans le cas contraire, il commet erreur sur erreur, et nous, un pas vide, nous contemplons ses bévues. On raconte que la paella, ce fleuron du baroque méditerranéen, a été inventé par les musulmans qui cherchaient un substitut à la semoule du couscous, l'habillant de mer et non de terre. C'est bien connu, de la mer le mérou et de la terre l'agneau. Là aussi, il y a une mosaïque romaine comme celle du musée archéologique de Naples. Une mosaïque que l'on dévore des yeux, la route des gambas, avant de la manger. Et dans les deux cas, on se régale. Comme l'huile, qui est aussi de l'or, et le raisin, ensuite son mou. C'est ici, dans la Méditerranée, il faut le répéter, que le monde a été créé. Ici sont nés et se sont diffusés la pensée et l'art, les religions monothéistes se sont développées, et le virus de l'écriture, toutes les écritures, s'est répandu pour porter la mémoire et porter témoignage. La Méditerranée est la mémoire primitive, et sa littérature la voix de l'homme, mais aussi la voix de Dieu. Nous devons tout à la Méditerranée, même si nous ne sommes pas toujours à sa hauteur, comme en ce moment. Traduit de l'espagnol par Edmond Rayard.
Comment en ce moment, vous voyez la chute propre à la nouvelle, car c'est resté ce que des nouvelles. On est enveloppé de cette vision magnifique de l'Europe. On se demande si dans le dernier paragraphe, il n'y a pas de l'ironie en disant que c'est le berceau de notre civilisation et que la paella, c'est une forme de couscous. Et en tout cas, voyons l'ironie de cette vision de l'Europe, c'est celle qu'on nous donnait il n'y a pas si longtemps en disant que l'Europe... Eh bien, l'Europe chrétienne, notamment, c'était le berceau de la civilisation. Mais là, il n'en parle pas. Il a une tentation pour rendre plus arabe, plus musulmane la Méditerranée, mais pas tant que ça. Ce qui reste, c'est une vision de quelqu'un qui est un poème en prose. Il voit la Méditerranée comme une grande mer. Mer-re, M-E-R-E. Voilà. La prochaine nouvelle, c'est tout à fait différent, c'est la mer qui est bourbeuse. Comment il l'appelle ? Tu vas voir le prochain truc.
Ça sera de Sharif Majdalani, monologue de Bilal.
Voilà.
Aujourd'hui, j'ai pourtant fini par réussir à acheter une voiture, un vieux modèle de BMW, que le régisseur des Atari m'a débrouillé et que j'ai payé par traite, des traites minuscules mais qui sont terriblement lourdes pour moi. J'ai dû faire encore plus de sacrifices, mais avoir une voiture est une manière de sentir qu'on n'est pas totalement largué, qu'on a avancé dans la vie, et c'est agréable de se déplacer aisément, de dépasser les gars à mobylette. C'est comme devoir se matérialiser cette sensation qu'on s'est dépassé un peu soi-même. Sauf que, pour l'instant, je ne vois pas comment je pourrais aller plus loin. Je n'ai pas un sou vaillant. Je compte à chaque minute et pour chaque dépense. Et vous n'imaginez pas le nombre de choses dont je peux avoir envie et que je ne peux pas posséder. Cela devient une seconde nature, cette assurance que je ne pourrai pas, cette aptitude à renoncer à tout ce que je convoite, cette impression que le monde entier est comme la vitrine d'un splendide magasin à jamais inaccessible. Inaccessible comme l'Europe, que parfois j'essaie d'imaginer avec ces villes de rêve, de l'autre côté de la mer et de l'horizon que l'on voit depuis la terrasse de la maison des Ahatari, où je monte parfois pour arroser les plantes et vérifier que tout va bien. Vous comprenez aussi pourquoi je ne veux pas me marier ni m'installer avec une femme. Je n'aurai à partager avec elle que la pauvreté, la nécessité de compter et de se faire du souci pour nos lendemains et ceux de nos enfants. Le mariage est donc une chose que j'ai décidé d'oublier, car mes difficultés deviendraient définitivement irrémédiables. Mais elles sont irrémédiables de toute façon. Je sais que je ne trouverai jamais la possibilité d'être vraiment tranquille et sans inquiétude une heure dans la vie. Avec une femme ou sans elle, et alors autant que ce soit sans elle, je vais toujours devoir me contenter de ce lot de misère, de cette condition de pauvre, ce piège dans lequel les gens comme nous tombent en naissant.
Ça, c'est migration positive de degré zéro. Il a été... Non, ses patrons, les Afaris, qui sont des Arméniens, qui sont immigrés et qui ont réussi, ils ont acheté de la terre et maintenant ils ont pas mal d'ouvriers agricoles. Et lui, c'est quelqu'un qui arrive à vivre, qui aime son métier, il aime la terre, il aime l'agriculture. Il raconte que rien n'est plus beau que de se lever tôt le matin à la fraîcheur et d'aller voir les fruits qui brillent sous le soleil qui naît. Et en fait, Il a très peu d'argent. Enfin, il va pouvoir acheter une voiture, vous venez de l'entendre, mais son avenir est complètement bloqué. Il peut manger à sa faim, mais son jour J, s'il y a une crise et qu'il y a moins de travail, eh bien, il n'y aura plus rien. Voilà comment cela se passe. Et on va voir maintenant la mère, c'est une autre nouvelle, comme une robe noire. Il ne semble que j'ai manqué la mère Thérèse.
Non, là c'est la page suivante et c'est de Myriam Alaoui.
Oh, très bien.
Donc un extrait. Mes mains maintenant agacées creusent dans l'eau de ma robe. Et l'air trop lourd et lent comme une traîne de l'essuie me fâche. Et dans les volants mes ongles forts. Et l'est, ils sont des tailles la guipure. Où es-tu, bestiole de gomme, bestiole de rien qui trouble mon sommeil et m'arrache à ma nuit? Ma robe est lourde et toi cachée dans un pli. Ma robe est lourde et toi haletant dans les plis. D'un ongle perdu à l'autre, tu pends, flanc au ciseau de saphir au fer, et tu murmures et pries. D'autres ont cédé à l'abîme, destin grelottant, feuilles mortes et lentes, funestes fauves et flanquées, aujourd'hui dans ton lit. Pourtant, cette nuit-là, je ne te trouve pas. J'arrête de te chercher, je retourne me coucher. Car nous sommes en mai et le matin m'attend. Pour le soleil amoureux, je me dois lisse et calme. Véloce à ta recherche, je me suis levée. Mais dans un mouvement lent et là, presque endormie, déjà me couche. Platement, ma robe retombe, ses plis se lissent. Mes bras se fondent dans la soie et sur l'oreiller. Mes cheveux s'étalent. De perles et de dentelles, la nuit scintille, et sous son toit m'endort. Je redeviens la douce, l'aimée, la tendre, la promesse, la caresse. Mais sur ton ventre, comme dans un rêve, une ligne est mon serment. Tu as troublé ma nuit, je hanterai la tienne.
Voilà, la nuit présentée comme une femme dans une grande robe noire et qui a la possibilité de détruire le petit navire qui présentait comme un tout petit insecte simplement. Ça fait penser à la phrase de Voltaire dans Zadig qui dit, est-ce qu'il s'agit de la Providence, est-ce que sa hôtesse, alors là la hôtesse c'est la mère en noir avec sa robe noire, est-ce que sa hôtesse s'intéresse aux souris qui sont sur un navire, c'est trop petit, elle est trop grande. Là, c'est un peu ça, mais il y a aussi le fait qu'elle est changeante. Ça, c'est une caractéristique de la Méditerranée qu'on retrouve souvent là, dans le livre. C'est que quelquefois elle est plate, et pas longtemps après avoir été pleine de vagues, avec ses coups de vent terribles de Méditerranée qui la rendent très dangereuse, et puis soudain elle s'apaise, comme ici, où elle sent venir. Après avoir été agitée la nuit, sans venir le jour, et elle va se calmer, parce qu'il est temps de laisser dormir les étoiles. Alors, quel est le...
Maintenant, c'est une nouvelle, un paragraphe de Mahmoud Tawfik. On l'appelle Alexandre le Grand.
Oh, alors là, c'est la nouvelle qui est la plus... qui est la plus rigolote, Alexandre le Grand, c'est pas Alexandre le Grand, c'est quelqu'un qui s'appelle de son second nom, I.I. Alexandre le Grand, je ne sais plus son prénom. Il s'apprête à visiter Alexandrie, et je crois que c'est Alexandrie, j'ai oublié la ville. Il rencontre par hasard un ami qui est en mission, encore une ONG, et qui s'apprête à partir.
Je vais rentrer dans le vif du sujet. Il le faudrait, dit-elle, en me défiant du regard.
Elle, je t'arrête, et cet homme est accompagné d'une femme, l'air un peu revêche, sombre, et il lui fait sentir, en lui mettant la main sur sa main, sous le nez d'Alexandre, sous le nez de son compagnon, c'est Alexandre, le héros de l'affaire, qui lui plaît. Elle fait le rembarre. Alexandre a vu, mais bon, il n'en fait pas cas, c'est pas l'occasion d'une belle bataille. Mais dès que l'autre est parti parce qu'il a fini sa mission, eh bien, il l'invite. Et c'est leur conversation que vous allez entendre.
Je vais rentrer dans le vif du sujet. Il le faudrait, dit-elle en me défiant du regard. Je commençais à avoir peur que tu me fatigues toute la soirée avec des banalités. J'essaie d'ignorer son commentaire. Je me gratte la gorge. Lydia, que dirais-tu d'un autre dîner, toi et moi, peut-être au bord du Nil cette fois? Je connais un restaurant et je suis sûre que... Alex, m'interrompt-elle à bout de patience, pourquoi ne parles-tu pas franchement? Pourquoi ne dis-tu pas que tout ce que tu veux, c'est me mettre dans ton lit? Lydia, protestai-je en agitant la main, prends-le comme tu veux, mais j'imagine que tu finiras tôt ou tard par quitter Martin, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ce que je désire au fond, me répond-elle en souriant, mais je serais bien bête si je le quittais. Je suis une femme dépourvue d'âme. Si je quittais Martin, je serais en plus une femme dépourvue d'intelligence. Un silence pesant s'installe entre nous. Je bois une rasade de whisky. Aken aluro tabis ratato, dis-je, l'esprit ailleurs. Que dis-tu, rétorque-t-elle en regardant stupéfaite. Rien, je hausse les épaules. C'est une vieille formule magique de copte que je tiens de mon grand-père. Elle sert à faire venir le bonheur, si tu veux. Maintenant, elle rit. Je ne l'avais jamais vue rire avant. Elle rit et rit encore. Elle rit fort, avec insolence. Peut-être qu'elle se moque tout simplement de moi, encore une fois.
elle repartira en effet. Et ils auront l'occasion de s'embrasser, de s'enlacer une fois, mais rien ne viendra. Ensuite, il dit, et Alexandre le Grand, qui est bon garçon, ben, s'en accommode et s'apprête à repartir lui aussi à son tour. Prochaine nouvelle, j'ai pas marqué le titre là.
C'est Sans frontières de Wilfried Tsondé.
Alors là, celui-là, c'est Sans S-A-N-G,
voilà.
Frontières, et... on voit un voyage en bateau qui est terrible. Après l'espoir, le désespoir, vous allez entendre.
Même si leur poule a déjà ralenti, se contrôler, respirer, garder son sang-froid, ils se sont endurcis depuis l'envol maladroit, hasardeux vers l'inconnu. Corps maigre, proche de la chute, équilibre précaire, aile de plomb. Leur ciel s'assombrit ici, dans la fange, dans le noir des abysses souterrains. Le royaume de ceux qui se couchent à même le sol implore tête basse. La solitude. Heureusement, la beauté du silence murmure des lendemains heureux. Lumière d'un phare, chimère ou folie, qu'importe. Accrochés à un songe éveillé, ils n'ont peur de rien. Du moins, tant que les yeux braqués sur eux restent fermés. Dès qu'ils s'extraient de l'ombre, les doux mots de l'espoir qui sortent de leurs lèvres, la nuit sous les étoiles se taisent. Plus aucune chanson à tue-tête pour se galvaniser face à la menace. Arrive l'angoisse. Alors commence la détresse. Elle s'invite à la vue de tous sur les écrans et brave l'humanité. Plus tard, certains deviennent cadavres, une hécatombe anonyme qui s'embourbe au fond des mers. D'autres disparaissent dans l'oubli des cachots ou s'échouent sur une plage de tes vacances. Oui, toi là-bas, raidi d'angoisse, alors que tu les observes de loin, depuis l'autre versant du monde, espères-tu encore le statu quo? L'exil tous azimuts précipite la fin d'un temps et en annonce un autre, nouveau, incertain, mais plein de promesses. Ils poussent les limites, redessinent les continents, se rencontrent en chemin, se combattent, s'unissent et suggèrent de nouveaux contours. Regarde, ils arrivent avec pour unique richesse le temps infini de l'espoir. Regarde-les cheminer. Ils t'espèrent et te serrent déjà contre leur cœur, la main tendue pour un monde nouveau. Malgré tout, ils se réjouissent de te rencontrer bientôt, toi, qui les ignores encore. Ils te devinent depuis l'aube de leur mirage et te préparent un sourire derrière leurs traits tirés, leur plus belle grimace. Mais tu cries à l'imposture, condamnes sans appel leur mine de chien battu, suspicion et la misère dans leur bagage. Regarde bien l'étincelle, concentre-toi, arrête-toi un instant, ouvre les yeux. Ils relèvent la tête, se redressent et t'appellent. Ils ont probablement hâte, embarras, face à face improbable. L'atmosphère est lourde, les paroles se cherchent, peu de bienveillance, quelque chose se dérobe. La méfiance, tu recules. Ils venaient partager avec toi, tends au moins ton oreille à défaut de ta main. Les gestes du refus, tes lèvres pincées, ta moue désolée, ils supplient, tu te braques. Ils ont écorché leurs doigts et brisé leurs ongles. Hier encore, arrivés tout en haut du dernier obstacle, ils ont entreaperçu ton bonheur. Tu les renvoies brutalement dans le silence de la terre, livrés au courroux des éléments, terrifiés sans issue. Exister redevient un mystère d'injustice.
Voilà, un beau passage lyrique avec un appel à celui qui n'est pas émigré, qui le voit et qui ne fait rien pour lui, à être plus empathique. Eh bien, le lyrisme est chaotique, quelquefois c'est l'espoir, quelquefois c'est la joie de l'espoir. Il attend beaucoup. Est-ce que c'est de la part d'homme ou de femme? On ne sait pas. En tout cas, il attend d'être heureux en rencontrant les gens qu'il est venu, qu'il a rejoint sur cette terre qu'il ne connaît pas. Et on va atteindre avec le texte suivant, et avant de mettre un peu de musique, le sommet de l'horreur avec quelqu'un qui parle de Sarajevo.
C'est de Fosia Zouhari, brûlé. Et l'extrait. Je suis montée sur la barque, plus rien que la mer roulant sans obstacle. Avant que les vagues ne se mettent à rivaliser entre elles, courant plus vite et plus haut. Le plus vieux passager, un quinquagénaire, a dit « C'est normal, l'hiver, la Méditerranée a des humeurs de femme. Notre bateau de fortune n'était plus qu'un brin de paille dansant dans la rafale. Nous nous sommes serrés les uns contre les autres, et pendant que la plupart priaient, je me répétais que je n'avais pas peur de me noyer. Vivre au pays était déjà une noyade. Je me forçais à rêver de demain, quand l'horizon serait solide et s'appellerait le rivage. Je filais vers mon avenir d'Europe, songeant à la vie qui m'y attendrait avec des fleurs, les aventures à foison et de quoi racheter tous les bracelets de la terre pour maman. Hélas, la mer s'était mise au travers de mes songes. À mesure que montaient les vagues, mon imagination chavirait vers des scénarios catastrophes. Le doute s'insinua en même temps que l'eau dans la coque. Les poissons surgissaient par bancs et je lisais sur leur dos, lustré, l'annonce de ma mort prochaine. Une lave froide coula dans mon ventre. Je connus les relents du regret et je vomis ces mots par-devers moi. « Mais pourquoi es-tu donc parti? Tu n'étais ni mendiant ni orphelin. » Tu avais une famille, un toit, tu as espéré la révolution comme tout un tas de jeunes de ton espèce. Elle est venue, le dictateur est parti. Tu pouvais hurler et insulter, voler ou t'immoler même. Personne ne te l'aurait reproché. Le boulot, tu aurais pu cultiver le lopin de terre de ton vieux, cueillir ses olives à défaut, te faire épicier, maçon, n'importe quoi. Tu avais les pieds sur la terre ferme et la tête calée sur la tendresse de ta mère. Et te voilà à tanguer plus fort que ton radeau, aux prises avec le doute et cette houle du désarroi, prêt à faire demi-tour s'il t'était donné de marcher sur l'eau.
Voilà comment se dit, c'est la seule fois là, pour le regret. Le regret d'être parti, c'est dit très fort au moment de mourir. Il parle aussi du bracelet de sa mère qu'il lui a donné pour payer son voyage. J'avais dit que c'était Sarajevo, mais j'avais oublié ce passage-là. Et on va peut-être... Est-ce que ça va bien, mon paradoxe?
Là, je suis sur la route de l'aéroport. C'est le centre de rétention, je pense.
Oui, eh bien, on va passer tout de suite sur la route de l'aéroport, où on voit... Non, c'est pas le centre de rétention, c'est... Je crois.
Non. C'est tout court, on va voir.
Ouais, ouais, ouais.
Sur la route de l'aéroport, j'ai le temps de repenser à mes premiers jours à Paris, il y a un an. Je n'avais pas réussi à trouver un boulot ni à décrocher des papiers. Mais je n'en concevais aucune peine, jusqu'au jour où la police m'a mis la main dessus et m'a emmenée au centre de rétention. Elle m'a demandé mes papiers d'identité. Je les avais jetés en mer comme le passeur nous l'avait recommandé. Je pouvais inventer n'importe quelle nationalité. Ce fut la marocaine, au hasard. Dès qu'ils m'ont relâché, j'ai disparu dans la nature avant de rejoindre un foyer de travailleurs irréguliers. Je n'avais pas les mots pour expliquer aux policiers ce qui me retenait dans leur pays. Leur expliquer que je ne demandais rien, juste marcher, parler aux pigeons, parler tout court sans être pris pour un fou. Inhaler avec bonheur le parfum de Paris, même s'il suinte l'essence et les mauvaises particules. Ne pas sentir dans mon dos l'implacable regard de la tribu. Hélas, je savais que, pas plus que ma mère, les policiers ne saisiraient mon histoire de sentiment.
Voilà, c'est quelque chose de très bref et qui montre que il y a des clandestins dans Paris, et ils se font prendre par la police et puis ils se font au centre de rétention. Quand ils sont terminés leur séjour, ils se font dans l'anonymat, ils vont dans un foyer et ça peut recommencer très longtemps, à moins qu'ils soient de nouveau pris et que cette fois-ci gardés au lieu d'être remis dans la nature. Qu'est-ce qu'on a maintenant ?
Là, j'ai « Êtes-vous chercheuse ?» finit-il par me demander. Voilà. Je vais te trouver l'auteur d'abord. C'est Menexé Toprak, déjà vu.
Menexé Toprak, c'est quelqu'un qui est entre la Turquie et l'Allemagne. Je suis en train de penser la Turquie et la France. Elle est arrivée en Turquie il y a longtemps, dans les années 50, à l'âge de 9 ans. Elle y a fait ses études. Et puis ensuite, elle est partie à Istanbul pour faire des études de droit et de sciences. Et là, elle a voulu revenir à Ankara, où son grand-père a été inhumé. Et elle lui en veut parce qu'évidemment, il était du côté de l'Allemagne pendant la guerre, et elle cherche sa tombe dans le cimetière. Les premiers gestes, quand elle est avec sa grande sœur, eh bien, sont des gestes, elle souligne les gestes de sa grande sœur, sont des gestes religieux pour prendre un arrosoir et arroser la tombe. C'est comme un grand rite très sérieux. Elle pense à son passé, elle pense à son chemin. Et en sortant du cimetière pour les militaires musulmans dans au champ d'honneur, eh bien, elle rencontre un homme jeune dont elle pense qu'il doit être quelqu'un qui fait partie de la mosquée, parce que la mosquée est tout près du cimetière. Et alors, il lui pose la question, êtes-vous chercheuse, parce qu'elle a un air qui est reconnaissable avec un sac au dos et des gros souliers. Et voilà comment sont vues les chercheuses par les Turcs.
Êtes-vous chercheuse ? Finit-il par me demander. Oui. J'explique que je suis en quête de la tombe du père d'une écrivaine sur laquelle je fais une recherche. On sait qu'étant décédée ici, à l'hôpital de la Charité en 1933, cette personne a été enterrée ici. L'écrivaine ou son père ? Au moment où je hoche la tête pour dire « son père », je comprends que cette brève réponse ne suffit pas, ne me suffit pas. Je ne sais pourquoi. Je veux parler de toi. Et je me lance. Je raconte que tu fais partie des premières femmes écrivaines ottomanes de la jeune République turque. Que vous êtes arrivées, ta grande sœur et toi, en tant que petite fille d'un général, pour faire vos études. Et que tu t'es sauvée d'Istanbul pour venir ici. Que tu as écrit des articles et des nouvelles pour des journaux et des revues. Lorsque ton père malade t'a rejointe pour se faire soigner et qu'il est décédé quelque temps après, le fascisme a commencé à se déployer, l'obscurantisme à s'imposer, les journaux à fermer, les uns après les autres, les gens que tu connaissais à se volatiliser. L'expression du visage de l'homme qui m'écoutait avec intérêt au début change au fur et à mesure que je parle, ses mains et ses bras s'agitent. Il est de plus en plus mal à l'aise. Je me rends compte qu'en m'entendant finir ma phrase avec le mot « fascisme », il fronce les sourcils. Je sais qu'il ne m'écoute plus, qu'il ne veut pas m'écouter. S'il m'avait écouté, pourtant, je lui aurais raconté que tu étais revenu à Istanbul, que là aussi tu étais devenu persona non grata à cause de tes articles qui ne plaisaient pas à l'État, que dans ta propre patrie tu étais devenu misérable, oublié. Je ne le lui raconte pas, mais il comprend ce que je n'ai pas pu dire et c'est bien cela qui le contrarie.
Voilà, nous allons maintenant mettre un peu de musique après cette grave confrontation entre le jeune qui est déjà un peu islamiste et la jeune chercheuse. C'est... Nathalie Levissal, Caroline Moine ont dirigé cet ouvrage collectif Méditerranée, Amère Frontière. Vous avez reconnu l'hymne européen, c'est pas très original comme choix, mais c'est un livre qui a été conçu par des gens qui étaient tous européens. Et on va voir ce qui est complètement en contrepoint avec l'hymne à la joie, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour une femme d'origine grecque qui témoigne à Sarajevo, puisqu'elle a rejoint son mari qui a été gravement brûlé. Et elle n'accepte pas cette situation et la douleur, non seulement de d'être à côté d'un grand poulet et de le soigner, mais la douleur d'être séparée de celui qu'elle aime.
Ce qui s'est passé en Bosnie, vous l'avez vu à la télévision. Entre une chanson de Bono et les condoléances de l'ONU, vous avez sûrement dit comme c'est triste. Moi aussi, je l'ai dit 1000 fois avant. Mais aujourd'hui, en 2019, comment dire combien je suis triste quand je pense à l'une de ces nombreuses guerres qui mettent l'Afrique en feu et en sang? Comment écrire un post sincère sur Facebook pour exprimer l'injustice de la situation syrienne où les droits de l'homme ont moins de valeur que le verre de vin que je bois en écrivant ces lignes? J'en ai bien besoin. L'alcool dégrise, écrivait Marguerite Yourcenar désespérée. C'est l'histoire d'une douleur que je paie chaque jour, juste parce que je suis amoureuse. Une douleur que je dois accepter, mais je n'accepte pas. En bosniaque, moram da privatam, ali ne privatam, izni vinit, excusez-moi, je n'y arrive pas. Mais nous en sommes à l'heure des excuses. Tôt ou tard, vous nous demandez pardon. Enfin, vous leur demandez pardon. Moi, je n'y ai pas droit. Je ne suis pas Jéhovah des leurs. Mon histoire n'a rien à voir avec la Bosnie. On me l'a dit plus d'une fois. Cela m'a tellement blessée que j'en ai pleuré des jours entiers. Ils ont raison. Je suis étrangère ici. J'aime des étrangers qui me considèrent comme une étrangère. Autre paradoxe déchirant. Je me suis habituée. C'est à la fois facile et juste de dire de ce qui se passe en ce moment, à cet instant précis où mes mains s'activent sur le clavier, que cela ne doit pas se passer comme ça, que la Méditerranée ne peut pas être une fosse commune comme l'a été la Bosnie, qu'il est injuste que d'autres hommes, femmes, enfants, personnes âgées, en ce moment précis, aillent à l'école. Entre guillemets. Pas dans mon beau lycée classique pour y écrire des livres à succès, wow, mais à l'école de mon mari, dont personne n'a rien à foutre. Alors je vous le demande, fermez-la cette école, levez-vous, arrachons-nous au divan et à Twitter, et conduisons les êtres humains, quels qu'ils soient, leur passeport dans des écoles, quel que soit leur passeport, dans des écoles normales, dans des lieux normaux, où on leur témoigne dignité et respect. Je suis comme une roche calcaire dévorée par l'érosion. La douleur qui me ronge est si mordante que si vous ne le faites pas, je vais aller la fermer moi, l'école de ce monde ignorant.
Voilà comment s'exprime sa révolte. On comprend que son mari était un bosniaque, mais que maintenant, la voilà en Bosnie, mais comme elle est d'origine grecque, elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas des leurs, et elle n'est pas non plus, évidemment, serbe. Mais elle ne peut pas être recueillie par des groupes qui sont des groupes autres que ce qu'elle est elle. La prochaine nouvelle, qu'est-ce que...
Là, on va passer en Algérie. C'est Samir Toumi, à portée de soi.
Oui.
Et tu dois lire ça.
Oui, ça va. On dit beaucoup que la Tunisie, maintenant, c'est tranquille, qu'il n'y a pas beaucoup de ceux qui sont haragas, c'est-à-dire qui déchirent. Haragas, ça veut dire brûler, qui brûlent leurs papiers avant de prendre le bateau. Et dans leur village, il y a eu une dizaine de gars qui étaient du village, tous entre jeunes, entre 18 et 34 ans, qui ont pris le bateau, qui sont morts, sauf deux qu'on a pu repêcher. C'est cet événement qui a fait du bruit en Tunisie.
En Algérie.
En Algérie, et notamment en Kabylie, je crois. Et il raconte comment ça a été, comment ça s'est passé.
Ce quartier d'Alger, je le connais tellement bien. C'est le quartier dans lequel je suis née et j'y ai passé une grande partie de mon enfance. C'est Raïs Amidou. Les Algérois l'appellent encore la pointe de son ancien nom. Cette plage, d'où les barques partent, je m'y baignais tous les étés. Elle porte un nom de dictature, Franco. Face à la petite bande de sable où les barques de pêcheurs sont assoupies, il y a le quai et ses rochers en pain de sucre. Plus haut, il y a la maison du poète Jean Sénac et la baraque du roi de la frite, où l'on vient acheter des cornets de chips et des beignets au sucre avant d'aller nager. Comme les enfants du quartier, Raïs Amidou, le célèbre corsaire, est mort en mer. C'était en 1815, au Cap Gata, non loin des côtes espagnoles. « Quand je serai mort, tu me jetteras à la mer », avait-il dit à l'un de ses amiraux, avant d'engager une bataille qu'il savait perdue d'avance contre des navires américains. Deux siècles plus tard, c'est la mer qui se jettera sur les enfants de Raïs Hamidou.
Avec un ami, il visite Alexandrie, il y a 2 jours. Ils sont là avec leurs affaires pour 2 jours et ils donnent une description de Alexandrie. Moi, je ne savais pas que le phare avait été élevé à l'endroit de la citadelle qui surplombe maintenant Alexandrie et dans laquelle ils trouvent un musée méditerranéen tout à fait poussiéreux, encore une image de la Méditerranée, et cela lui inspire des réflexions sur le temps qui passe et l'Europe qui se détruit là, ces symboles poussiéreux, ces gros poissons attachés au plafond, ou des bocaux qui ont perdu l'alcool pour faire conserver les mollusques qui sont dedans. Alors, au bout de 2 jours, ben, ils repartent en plus, et du hublot, ils regardent tout ce qu'ils ont fait, du hublot de l'avion.
Donc un extrait de la nouvelle Alexandrie de David Wagner. Sur le chemin de l'hôtel, je vois une jeune mère, une madone de la rue, qui vend des mouchoirs en papier. Elle est assise sur le rebord du trottoir, elle caresse la tête de son enfant endormi. Et je suis émue. Tellement émue, je lui achète un paquet de mouchoirs, avec une sensation de malaise, parce que ça ne l'aide pas vraiment non plus ce que je fais. Pourquoi est-ce que je ne lui donne pas tout ce que j'ai ? Assis côté hublot dans l'avion, le siège du milieu est vide, le soleil brille. Je vole, tout simplement. Je n'ai pas à nager ni à grimper dans un canot pneumatique. Je regarde au loin, au-delà des ailes de l'appareil, et je vois Alexandrie d'en haut. La bibliothèque, la citadelle, notre hôtel et le port. Je nous vois, Samir et moi, au bord de l'eau. Mais non, bien sûr que non. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes plus là-bas, en bas. À moins que.
À moins que, c'est la chute de la nouvelle, peut-être. Ils vont y rester toujours, parce que ça va être dans leur tête, c'est pas très sûr. Hein. Alexandrie pendant 2 jours, c'est vraiment là le témoignage du touriste qui vient voir une ville et ses monuments et qui s'en va au bout de 2 jours. C'est un peu le degré zéro de la compassion qui est donné ici. On va voir autre chose maintenant avec...
Le canonnier de Gauss.
Voilà. Alors là, c'est pas le touriste... C'est celui qui dit les choses à la vérité.
Black Manou, personne n'est dupe. Mes faux businessmen malinqués, mes faux touristes bantous, mes faux étudiants peuls, on sait qu'ils vont finir vigiles dans un magasin, lanceurs de poubelles au cul d'une benne à ordures ou pousseuses de landau à bébé blanc. Ce qui compte, c'est que les papiers soient bons. Nous, les canonniers, les vrais, nous sommes les nouveaux tirailleurs, les parfaits collabos de la riche Europe, une hypocrite prête à tout pour garder son niveau de vie. Les enfoirés du désert, c'est de la mauvaise contrefaçon. Toute la presse qu'on fait à ces pirates arabes, ça travaille pour nous au final le produit original. Les gens vont bien finir par recommencer à se laisser exploiter ici pour pouvoir avoir le droit d'aller se faire exploiter là-bas. Venez, venez mes enfants, moi, Aladji Touré, Aka Arsenal The Gunner, je ne laisse personne sur le chemin. Si Boeing et Airbus le veulent bien, amen.
Voilà les paroles du canonnier qui n'a pas peur de dire les choses et qui n'a pas la moindre culpabilité du métier qu'il exerce. Il est passeur et la première chose qu'il dit, c'est qu'il y a le narrateur qui parle ensuite du passeur, dit qu'il a enfin, au bout de 9 années, un passeport qui est un faux, et il s'inquiète un peu. Le canonnier, celui qui a fait le passeport, dit, oh, vous savez, ce qu'on dit, que tous les Noirs se ressemblent, et puis ailleurs... C'est plus ce qu'on dit ailleurs.
Alors, on va passer à la nouvelle de Leïla Slimani.
Non, oui. Je ne retrouve pas le...
Parce que tu voulais...
C'est pas grave, ouais.
Le dormeur du le dormeur du Val à Meknès en 2001.
C'est le plus ancien. Ah non, il y a 1950 aussi, c'est le plus ancien des textes. Et Leïla Slimani qui a eu le prix Goncourt pour son livre Chansons douces, et qui a depuis écrit plusieurs livres avec beaucoup de succès. Et bien là, c'est une œuvre de jeunesse, et c'est un style qui n'est pas du tout travaillé, et qui montre plutôt l'innocence d'une jeune fille qui est travaillée par quelqu'un qu'elle a vu, qu'elle appelle le dormeur du Val. C'est pas le personnage de Rimbaud, c'est un ouvrier agricole qui est dans le retrouve mort dans un champ qui appartenait à sa mère, à sa grand-mère.
Il y a quelques années, j'ai fait un reportage à Kouribga, dans cette région du Maroc qu'on appelle le Triangle de la Mort, à cause de la concentration de passeurs et de haragas, littéralement ceux qui brûlent, en référence aux clandestins qui mettent le feu à leurs papiers avant de prendre la mer. Toute la journée, j'ai entendu le récit de ces mères à qui je devais dire « Je ne comprends pas, parce qu'elles pleuraient trop et qu'elles perdaient la tête. » Le soir, je n'ai pas dîné. Le restaurant de l'hôtel était lugubre, ma chambre aussi, et je voulais dormir et oublier. Je me suis couchée dans mon lit froid et j'ai sombré dans le sommeil. Au milieu de la nuit, j'ai senti que mes mains étaient mouillées, mes pieds aussi et même ma couverture. J'ai cru que je rêvais et je voyais monter l'eau au pied de mon lit. Je me sentais mourir, étouffant dans les profondeurs de la mer, le visage violet. Mon cœur s'est mis à battre, à tout rompre. J'agitais les bras, je hurlais. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que ma chambre était inondée. Une canalisation avait sauté dans l'hôtel et nous avons été évacués. Dans la rue, dans mon pyjama trempé, je marchais comme une somnambule, les larmes aux yeux, avec l'envie folle, désespérée de rentrer chez moi. Quand nous avons pu réintégrer nos chambres, je me suis rendu compte que mes affaires avaient toutes été emportées dans l'inondation. Mes carnets, mon ordinateur et bien sûr mon passeport. Je connaissais quelqu'un au consulat et je n'ai pas fait la queue.
Voilà les différences entre les simples Pékin et Leïla Slimani, qui n'est pas encore la Leïla Slimani qu'on connaît, mais qui a déjà son statut de personne privilégiée. On a encore quelque chose à lire, si tu veux.
Oui, j'ai page 135.
Voilà.
Et ça, je vais voir de qui c'est. C'est de Antonio Muñoz Molina. Ceux qui émigrent, ce sont les autres.
Ouais.
Regarde bien, a dit mon cousin en conduisant à présent dans la nuit, les phares éclairant la route devant nous et les silhouettes répétées des oliviers dans l'obscurité. D'autres silhouettes marchaient, avec des sacs à dos, des cabas, des baluchons à l'épaule. On a dû leur parler d'un endroit où on embauche et ils se sont passés le mot. On voyait les écrans éclairés des portables, des yeux brillants et vigilants. Ils avançaient le long d'une départementale de la province de Djaen, comme sur les chemins de terre d'Afrique, avec une détermination à la fois fatiguée et invulnérable. Ce paysage que je connaissais si bien, je le voyais soudain avec les yeux de ces migrants, étrangers, sombres, une étendue désolée où il serait très difficile de trouver refuge. Traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon.
Voilà, il est de retour chez lui, et c'est son cousin qui le promène, et il voit, il ne reconnaît pas le paysage. C'est ainsi que change la vue de ceux qui ont fait une certaine expérience. Ce qui m'a le plus frappé, c'est Leïla Slimani, avec cette terreur qui pourtant ne dure pas longtemps, puisque elle peut sans difficulté récupérer ses affaires. Elle n'en parle pas des affaires, mais avoir son passeport et prendre l'avion. Et elle a remarqué, elle sait le marocain, elle a la langue, mais elle n'arrive pas à comprendre ce que lui disent les mères de ceux qui sont morts noyés, parce qu'elle sanglote tellement qu'elle ne comprend rien, ce qu'elle disait, les gens n'y comprennent rien. Je me demandais ce que ça voulait dire, mais c'est une sensation très, très personnelle. Quand on ne comprend pas, on est complètement perdu. Et là, il y a tout eu l'eau, le fait qu'elle soit chassée de sa chambre, la terreur d'être noyé, le fait d'être dépouillé de toutes ses affaires et puis de rien comprendre, c'est un peu énorme. Et le sentiment très fort du pays perdu, de l'exil, que personnellement elle n'a pas, mais qu'à l'époque elle a pu sentir. Autre chose, je trouve, qui reprend bien l'intérêt de ce, qui montre bien l'intérêt de ce livre, c'est une question de vocabulaire. Vous connaissez le sens du mot aragas? Moi, je ne connaissais pas. Je croyais que ça voulait dire les miettes. Il y a une émission de Radio-Belair qui s'appelle Aragas, d'ailleurs. Et ça signifie brûler. C'est-à-dire que on évoque les papiers qui sont brûlés par les jeunes gens, comme ceux du même village et du même quartier, qui ont brûlé leurs papiers pour ne pas être reconnus. C'est une chose qui se fait couramment. Ensuite, ils disent « j'ai perdu mon passeport ». Enfin, troisième chose que je voulais dire aussi, c'est que ce livre qui est fait pour nous faire connaître la Méditerranée comme frontière amère, la Méditerranée amère frontière, c'est pas tant les témoignages qui sont extrêmement variés, hein, que ce soit des gens très simples, que ce soit des classes moyennes qui montent sur les bateaux et meurent, que ce soit dit sur les voies lyriques de l'espoir, de la joie et de la terreur et de la désillusion. Et puis la différence, je le répète encore, des classes sociales de ces gens, mais la plupart d'ailleurs sont des classes moyennes, ce ne sont pas des comme celui de la seconde nouvelle, Méditerranée terreuse, eh bien, qui lui est un travailleur agricole, qui le restera toute sa vie, ou peut-être non, s'il ne trouve pas de travail, mais ce sera alors encore pire. Et ce que on nous montre donc, c'est non seulement la diversité de ceux qui émigrent, non parce qu'ils viennent nous envahir, comme on entend dire, mais parce que c'est le monde qui s'est rétréci. Soudain, c'est à portée de main, comme ils disent. Il y a une nouvelle qui s'appelle « À portée de main ». Il voit la rive d'en face, il se croit à portée de main, et puis c'est pas ça du tout. Et donc cette Europe qui nous est présentée, non seulement à travers les personnages des nouvelles, mais à travers ceux qui ont fait le livre, c'est une Europe bien, bien différente, c'est une Europe impuissante, c'est une Europe souvent méfiante, c'est une Europe, comme, j'en parle comme des gens, hein, c'est une Europe qui ne veut pas voir, qui ferme les yeux, et surtout, c'est une Europe qui est impuissante à faire le bien qu'elle voudrait faire, parce qu'ils ont quand même de la bonne volonté, et cette bonne volonté, quatrième point à voir, c'est qu'elle s'exprime par le travail commun qui a été fait. Moi je pense à ces deux femmes, probablement des volontaires des ONG, qui sont à la fois à cheval sur deux, comme beaucoup d'ailleurs, à cheval sur deux pays, sur deux nationalités, et qui ont fait ce travail de réunir tous ces textes, et c'est déjà l'Europe qui se construit. Mais alors, elle se construit, il faut le dire, sans les pays de l'Est, hein, parce que tout l'Est de l'Europe il est complètement absent. On en parle un peu de Sarajevo. Qu'est-ce qu'on entend ?
Ça fait rien.
Oui,
pour continuer.
Que le vœu qu'elles font va se réaliser, que la littérature pourra apporter quelque chose dans la recherche de la solution de ce problème des migrants.
Je peux lire le point de vue des éditeurs, oui, sur la quatrième de couverture.
Ouais.
Créée en 2015, SOS Méditerranée est une association civile et européenne de recherche et de sauvetage en haute mer qui a pour vocation de porter assistance aux migrants, hommes, femmes et enfants, qui se retrouvent en danger de mort lors de la traversée de la Méditerranée. Les écrivains qui ont accepté de participer à ce recueil livrent 16 textes intenses, très variés, émouvants souvent, intimes parfois. Leur récit évoque les relations entre les pays du Sud et l'Europe et une mer devenue cimetière. Ils racontent l'espoir d'une autre vie, l'horreur rencontrée en chemin ou la déchirure de l'exil, mais aussi de fragiles instants de joie ou de douceur. À sa manière, Ce livre se veut une contribution à la forte et belle mobilisation citoyenne internationale qui accompagne SOS Méditerranée depuis ses débuts. Les bénéfices en sont reversés à l'association. Donc c'est publié par Actes Sud. Je peux vous dire les auteurs: Aminata Aydara, Meriem Alaoui, Christos Chrysopoulos Goz, José Carlos Lop, Sharif Majdalani, Andrea Marcolongo, Antonio Munoz Molina, Wilfried Nsondé, Leila Slimani, Mahmoud Taufik, Menekse Toprak, Samir Toumi, David Wagner, Samar Yazbek, Fosia Zouhari.
Merci Françoise. Si, s'il reste du temps, Sidi pourra peut-être mettre de nouveau les lignes à la joie.
À la semaine prochaine.
Et puis, ce qu'ils disent de l'Europe, ben c'est un peu optimiste quand même, parce que SOS Méditerranée, malgré le nouveau bateau, elle a beaucoup de mal à faire son travail et à empêcher la Syrie de refermer ses griffes sur ceux qui mettent dans des camps de concentration. On vous dit au revoir jusqu'à la semaine prochaine où vous entendrez Dominique. Voici auparavant le début de la nouvelle Mon paradoxe
d'Andrea Marcolongo Muratovic. Je dors toutes les nuits avec un paradoxe. Sa peau de bébé me déconcerte. Je la touche et elle semble vierge, la peau de quelqu'un qui n'a jamais vécu, d'un être venu au monde hier, pas il y a 50 ans, ou de qui a passé sa vie dans une bulle de verre qu'aucune grenade n'a pu ébrécher. Non, ça ne peut pas être la peau de celui qui est allé à l'école, comme on me dit quand je lui demande les raisons et l'histoire de toutes les cicatrices dont elle est balafrée. Skolski Dani, les jours d'école. Sa façon, sa seule façon de me dire qu'il a fait la guerre. En Bosnie-Herzégovine, pas à Sarajevo, mais plus haut, entre Tuzla et Srebrenica. Il n'en dit pas plus, et moi j'accepte. Ce faisant, à mon tour, dans un repli obscur de moi-même, dont je n'avais pas conscience avant lui, je me suis approprié cette expression vague et vide, et je fais semblant d'y croire quand ça me fait trop mal. Le barrage qu'il impose à la mémoire m'étourdit. Sa façon de faire taire les cauchemars la nuit est aussi devenue la mienne. Tout, je suis prête à tout croire pour ne pas souffrir. Je pourrais m'effondrer sur place. Alors moi aussi, je fais comme si mon paradoxe était allé à l'école. J'y arrive très bien à me mentir à moi-même. Je me raconte qu'au fond, oui, c'est presque normal. Il y a des écoles où on apprend l'anglais, les mathématiques ou le grec ancien. D'autres, où il n'y a ni instituteur ni professeur, mais des projectiles et des lames. Question de chance, en somme.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.